Chapitre 4. Charleston, mardi 16 décembre 1980. Le shérif Bobby Joe Gentry s'inclina en arrière sur son fauteuil et sirota une nouvelle gorgée de RC Cola. Il avait les pieds posés sur son bureau en désordre et le cuir de son ceinturon grinça lorsqu'il adopta une position plus confortable sur son siège. La pièce qu'il occupait était minuscule, délimitée par un mur en parpaing et trois antiques cloisons en bois qui la séparaient de l'agitation régnant dans le reste de l'hôtel du comté. La peinture écaillée qui recouvrait ces cloisons était d'une nuance de vert administratif légèrement différente de celle de la peinture qui s'écaillait sur le parpaing. La quasi-totalité de l'espace disponible était occupée par le bureau massif, trois meubles à fiches, une longue table couverte de livres et de classeurs, un tableau noir, des étagères encombrées d'objets divers et deux sièges aussi chargés de paperasse que le bureau. « Je pense que je n'ai plus grand-chose à faire ici », dit Richard Haynes. L'agent du FBI avait écarté quelques dossiers pour se percher au bord de la table. Le pli de son pantalon gris était aussi effilé qu'une lame de couteau.
« Non », dit Gentry.
Il rota doucement et posa la boîte de cola sur son genou.
« Je ne pense pas que vous ayez des raisons de vous attarder ici. Autant rentrer chez vous. »
Les deux officiers de police ne semblaient pas avoir grand-chose en commun. Gentry n'était âgé que d'une trentaine d'années, mais son corps massif était déjà presque obèse. Son ventre proéminent, qui étirait le tissu gris de sa chemise et retombait sur son ceinturon, le faisait ressembler à une caricature de flic. Son visage était rougeau et parsemé de taches de sang. En dépit de sa calvitie naissante et de son double menton, Gentry avait un visage ouvert, amical, vaguement malicieux, sous lequel perçait encore celui du petit garçon qu'il avait été. Sa voix douce prenait des accents traînants qui étaient devenus familiers aux Américains depuis l'avènement de la CB, le succès de la country music et les innombrables films à cascade de Burt Reynolds. Sa chemise déboutonnée, son ventre proéminent et sa voix traînante suggéraient autant que son bureau en désordre une personnalité aimable et paresseuse. Mais la vivacité presque gracieuse de ses mouvements venait démentir cette première impression. Richard Haynes, agent spécial du Federal Bureau of Investigations, avait une apparence qui correspondait davantage à son tempérament. Haynes avait au moins 10 ans de plus que Gentry, mais il paraissait plus jeune. Il portait un costume 3 pièces en toile grise et une chemise beige signée Joss Abank. Sa cravate Lead 20 portait le numéro 280235 sur le catalogue de ce même fabricant. Ses cheveux étaient relativement courts, soigneusement coiffés et à peine grisonnants sur les tempes. Il avait un visage carré, sobre, aux traits réguliers, parfaitement assorti à son corps élancé. Il faisait 4 séances de gymnastique par semaine pour conserver un ventre uni et ferme. Sa voix était également unie et ferme, grave mais sans accent. On aurait pu croire que feu J. Edgar Hoover avait conçu Haynes comme un moule destiné à façonner tous ses agents. Il y avait davantage que des différences superficielles entre les deux hommes. Richard Haynes s'était révélé un étudiant médiocre durant les 3 ans qu'il avait passé à l'université de Georgetown avant d'être recruté par le FBI, qui s'était chargé de parfaire son éducation. Bobby Joe Gentry était sorti de l'université de Duke avec une double licence, art et histoire, avant de s'installer à Northwestern pour y passer une maîtrise d'histoire. Il avait découvert le travail de policier grâce à son oncle Lee, shérif d'une petite ville située près de Spartanburg, qu'il avait engagé à temps partiel comme adjoint durant l'été 1967. Un an plus tard, Bobby Joe avait obtenu sa maîtrise, et dans un parc de Chicago, il avait vu les policiers déchaînés matraquer sans merci des manifestants pacifistes en train de se disperser dans l'ordre. Gentry était retourné dans le sud, avait enseigné pendant 2 ans au Morehouse College d'Atlanta,
puis avait pris un poste de veilleur de nuit pour travailler à son livre sur le rôle du bureau des affranchis pendant la reconstruction. Il n'avait jamais achevé son livre, mais s'était surpris à apprécier son travail, bien qu'ayant d'énormes problèmes à conserver un poids conforme au règlement. En 1976, il s'était établi à Charleston et y avait été engagé comme officier de patrouille. Un an plus tard, il refusait un poste de maître assistant en histoire à l'université de Duke. Gentry appréciait le caractère routinier du travail de police, les contacts quotidiens avec les ivrognes et les fous, et l'impression qu'aucune journée de flic ne ressemblait à la précédente. Un an plus tard, il se surprit lui-même en se présentant au poste de shérif du comté de Charleston. Il en surprit beaucoup d'autres en remportant l'élection haut la main. À en croire un journaliste local, Charleston était une ville étrange, amoureuse de sa propre histoire, et l'idée d'avoir un historien comme shérif avait séduit l'imagination des électeurs. Gentry ne se considérait pas comme un historien. Il se considérait comme un flic.
« Si vous n'avez plus besoin de moi, » dit Haynes.
Pardon ?» demanda Gentry. Il avait perdu le fil de la conversation. Il écrasa la boîte vide et la jeta dans une corbeille, où elle rebondit sur d'autres boîtes avant d'atterrir par terre.
« Je disais que j'allais parler à Gallagher, et que je reprendrais ensuite l'avion de Washington si vous n'aviez plus besoin de moi. » « Je resterai en contact avec vous par l'intermédiaire de Terry et de l'équipe de l'administration aérienne. »«
Entendu, » dit Gentry. « Eh bien, je vous remercie de votre aide, Dick. Terry et vous en savez davantage sur ce genre d'affaires que la totalité de mes hommes. » Alors que Haynes se levait, la secrétaire du shérif passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. Sa coiffure était démodée depuis 20 ans, et des lunettes à monture ornées de faux diamants étaient pendues à son cou.
« Shérif, le psychiatre de New York vient d'arriver. »«
Bon sang, j'ai failli l'oublier, celui-là, » dit Gentry en quittant son siège à grand-peine. « Merci, Linda May. Dites-lui d'entrer, voulez-vous ?»
Haynes se dirigea vers la porte.
« Eh bien, shérif, vous avez mon numéro de téléphone, si jamais... »
« Dick, voulez-vous bien me rendre un service et rester encore un peu ? J'avais oublié que ce type allait venir ici, mais il peut nous donner des informations sur l'affaire Fuller. Il m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il était le psychiatre de Mrs. Drayton et qu'il était ici pour affaires. Voulez-vous bien attendre quelques minutes ? Je peux vous faire ramener au motel par une voiture de patrouille si vous êtes pressé de prendre votre avion. »
Haynes sourit et leva la main.
« Rien de presse, shérif. Je serais ravi d'entendre ce que ce psychiatre a à nous dire. »
L'agent du FBI se dirigea vers une chaise et en ôta un sac en papier blanc portant l'emblème de McDonald's.
« Merci, Dick. C'est très aimable à vous. »
Gentry s'épongea le visage. Il se dirigeait vers la porte lorsqu'on y frappa, et un petit homme barbu vêtu d'un blouson de velours côtelé entra dans le bureau.
« Shérif Gentry ?»
Le psychiatre prononça le nom du shérif avec un G dur.
« Bobby Joe Gentry !»
La grosse poigne du shérif se referma autour de la main que lui tendait le nouveau venu.
« Vous êtes le docteur Lasky, c'est ça ?»«
Saul Lasky !»
Le psychiatre était de taille moyenne, mais il ressemblait à un nain à côté de Gentry. Plutôt mince, il avait un front haut et pâle, une grosse barbe poivre et sel, et ses yeux marrons étaient si tristes qu'il semblait plus vieux que le reste de sa personne. Ses lunettes tenaient en place grâce à un morceau de sparadrap enroulé autour d'une branche.
« Voici Richard Haynes, agent spécial du FBI, » dit Gentry avec un geste de la main. « Je lui ai demandé d'assister à notre entretien, si ça ne vous dérange pas. » « Dick était déjà là et j'ai pensé qu'il poserait sans doute plus de questions intelligentes que moi. »
Le psychiatre adressa un hochement de tête à Haynes.
« Je ne savais pas que le FBI s'occupait d'affaires locales, » dit-il.
Sa voix était douce, son anglais presque sans accent, sa syntaxe et sa prononciation soigneusement contrôlées.
« Pas en temps normal, » dit Haynes. « Cependant, cette situation présente plusieurs points qui sont peut-être du ressort du FBI. »
« Ah, lesquels ?» demanda Lasky.
Haynes croisa les bras et s'éclaircit la gorge.
« Primo, un kidnapping, docteur. Ensuite, le viol des droits civiques d'une ou de plusieurs victimes. En outre, nous avons proposé l'aide de nos experts en criminologie aux autorités policières locales. »
« Et Dick est venu ici à cause de cet avion qui a explosé en vol, » dit Gentry.
« Et asseyez-vous, docteur, asseyez-vous.
Attendez, je vais débarrasser cette chaise. »
Il posa le tas de magazines, de classeurs et de gobelets en plastique sur la table, puis retourna s'asseoir.
« Bien. Vous m'avez dit hier que vous pourriez nous aider à éclaircir cette histoire de meurtre en série. »
Les journaux à sensation de New York appellent ça les meurtres de Mansard House, dit Lasky.
D'un geste distrait, il fit remonter ses lunettes le long de son nez.
Ah bon?
Dit Gentry.
Eh bien, c'est moins vexant que le massacre de Charleston, je suppose, même si ce n'est pas tout à fait exact.
La plupart des victimes ne se trouvaient même pas dans Mansard House.
Je continue de penser que ça fait beaucoup de boucan pour 9 assassinats. On tue encore plus de monde chaque nuit à New York, j'imagine.
Peut-être, dit Lasky. Mais la population de victimes et de suspects n'est pas aussi, fascinante que dans le cas présent.
Je vous l'accorde, dit Gentry.
Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez éclairer notre lanterne, docteur Lasky.
Je serais enchanté de vous aider. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous proposer.
« Vous étiez le psychiatre de Mrs. Drayton ?» demanda Haynes.
« Oui, pour ainsi dire. »
Saul Lasky marqua une pause et tirailla sa barbe.
Ses yeux semblaient immenses, leurs paupières lourdes, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps.
« Je n'ai vu Mrs. Drayton que 3 fois, la dernière en septembre. Elle est venue me voir à l'issue d'une conférence que j'avais donnée en août à Columbia. Nous avons eu 2 séances par la suite.
Mais c'était votre patiente ? »
La voix de Haynes était à présent aussi insistante que celle d'un procureur.
« En théorie, oui, » dit Lasky. « Cependant, je n'exerce pas de façon régulière. J'enseigne à Columbia, voyez-vous, et je donne de temps en temps des consultations à la clinique de l'université. Je rencontre des étudiants qui... de l'avis d'Ellen Hightower, la psychologue en titre, ont besoin de consulter un psychiatre, et aussi quelques membres de la faculté.
Mrs. Drayton était donc une étudiante ?
Non, non, je ne crois pas, dit Lasky. Elle assistait de temps en temps aux cours et aux séminaires, comme celui que j'ai animé. Elle a manifesté un certain intérêt pour un livre que j'ai écrit. « Pathologie de la violence !» dit Gentry.
Lasky scia et ajusta ses lunettes.
« Je ne crois pas en avoir mentionné le titre quand je vous ai parlé hier, shérif. »
Gentry croisa les doigts sur son estomac et sourit.
« En effet, professeur, je l'ai lu le printemps dernier. Je l'ai même lu 2 fois. Je viens seulement de reconnaître votre nom. C'est un livre sacrément brillant. » Vous devriez le lire, Dick.
Je suis surpris que vous ayez pu en trouver un exemplaire, dit le psychiatre. Il se tourna vers l'agent du FBI.
C'est un examen assez pédant de diverses affaires criminelles. Il n'a été tiré qu'à 2000 exemplaires, chez Academy Press. La plupart des exemplaires ont servi de support à des cours donnés à New York et en Californie. Selon le docteur Lasky, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à...
Comment appelez-vous ça, monsieur ?
À un climat de violence, c'est bien ça ? Demanda Gentry.
Oui.
Certains individus, certains lieux, certaines périodes inspirent à ces personnes sensibles des comportements qu'elles trouveraient impensables dans des circonstances normales.
Bien sûr,
cela n'est qu'un résumé un peu simpliste de mon cru. »
Lasky scia une nouvelle fois en regardant le shérif.
« Un résumé très astucieux, » dit-il.
Haynes se leva et alla s'adosser à un meuble à fiches. Il croisa les bras et plissa légèrement le front.
« Un instant, je crois bien que nous nous égarons.
Donc, Mrs. Drayton est venue vous voir, votre livre l'intéressait, et elle est devenue votre patiente, exact ?»«
J'ai accepté de la rencontrer dans le cadre de mon activité professionnelle, oui. » »«
Avez-vous également avec elle des relations plus personnelles ?»«
Non, je ne l'ai rencontrée que 3 fois. »
Pendant quelques minutes après ma conférence sur la violence dans le Troisième Reich et lors de 2 séances d'une heure à la clinique.
« Je vois, » dit Haynes, qui, à en juger par le ton de sa voix, ne voyait pas grand-chose. « Pensez-vous que la teneur de ces séances soit de nature à nous aider à élucider la situation présente ?»«
Non, j'ai bien peur que non. Sans trahir le secret professionnel, « je peux vous dire que Mrs. Drayton était préoccupée par ses relations avec son père, qui est décédé il y a plusieurs années. Il n'y a rien dans nos discussions qui puisse expliquer les circonstances de son assassinat. »«
Hum, » fit Haynes en retournant s'asseoir. Il consulta sa montre.
Gentry sourit et alla jusqu'à la porte.
« Linda May, ma chérie, voulez-vous nous apporter un peu plus de café ? Merci. »
« Docteur Lasky, peut-être savez-vous que nous connaissons l'identité de l'assassin de votre patiente, » dit Haynes. « Ce que nous ignorons encore, c'est le mobile de crime. »«
Ah, oui, » dit Lasky.
Il se caressa la barbe.
« C'était un jeune homme du coin, n'est-ce pas ?»«
Albert La Follette, » dit Gentry, « un portier de l'hôtel âgé de 19 ans. »
« Et sa culpabilité ne fait aucun doute ?»«
Pas des masses, non ?» dit Gentry.
« Selon nos 5 témoins oculaires, Albert est sorti de l'ascenseur, est allé jusqu'au comptoir, et a tué son patron, Kyle Anderson, le directeur de Mansard House, d'une balle en plein cœur. Il lui a collé le revolver sur la poitrine. On a retrouvé des traces de poudre sur son costume. Ce revolver était un Colt 45, et... pas une reproduction à bon marché, docteur, mais un authentique engin numéroté sorti des usines de M. Colt. Ah, et une véritable antiquité. Donc, le gosse a plaqué son arme sur la poitrine de Kyle et a appuyé sur la détente. Sans dire un seul mot, à en croire les témoins. Puis il s'est retourné et a abattu Leonard Whitney d'une balle dans le crâne.
Qui était ce Leonard Whitney ? Demanda le psychiatre. Haynes s'éclaircit la gorge et lui répondit.
Leonard Whitney était un industriel d'Atlanta en voyage d'affaires. Il venait de sortir du restaurant de l'hôtel quand il a été abattu. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a aucun rapport avec les autres victimes.
Ouais, dit Gentry. Ensuite, le jeune Albert a enfoncé le canon de revolver dans sa bouche et a appuyé sur la détente. Aucun de nos 5 témoins n'a tenté quoi que ce soit pour l'empêcher d'agir.
Bien sûr, tout s'est déroulé en quelques secondes.
Et c'est avec cette même arme qu'on a tué Mrs. Drayton.
Ouais.
Ce meurtre-ci a-t-il eu des témoins ?
Pas exactement, dit Gentry. Mais 2 ou 3 personnes ont vu Albert prendre l'ascenseur. Elles se sont souvenues de lui parce qu'il semblait venir de la chambre où elles avaient entendu une détonation. Quelqu'un venait de découvrir le corps de Mrs. Drayton. Mais il y a un détail bizarre. Aucun des témoins ne se souvient avoir vu le revolver dans la main du gamin.
Mais ça n'a rien d'extraordinaire. S'il avait transporté un cuisseau de bœuf, ces types-là n'auraient sans doute rien vu.
Qui a découvert le corps de Mrs. Drayton ?
Nous n'en sommes pas sûrs, dit le shérif. C'était la panique dans le couloir. Et puis, les réjouissances ont commencé à la réception.
« Docteur Lasky, » dit Haynes, « si vous ne pouvez nous donner aucune information sur Mrs. Drayton, je ne vois pas quel intérêt peut avoir cette conversation. »
De toute évidence, l'agent du FBI était prêt à mettre fin à l'entretien. mais il en fut empêché par l'arrivée de la secrétaire qui apportait du café. Haynes posa son gobelet en plastique sur le meuble à fiche. Lasky eut un sourire reconnaissant et sirota le breuvage tiède. Gentry se vit offrir une grosse tasse blanche sur laquelle était écrit le mot « boss ».
« Merci, Linda May. »
Lasky eut un léger haussement d'épaule.
« Je souhaitais seulement vous proposer mon aide, » dit-il doucement. « Mais je me rends bien compte que vous êtes très occupé. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. »
Il posa son gobelet sur le bureau et se leva.
« Oh là !»
s'écria Gentry.
« Puisque vous êtes venu ici, je veux avoir votre avis sur deux ou trois détails. »
Il se tourna vers Haynes.
« Le professeur Lasky a servi de conseiller à la police de New York durant l'affaire Son of Sam, il y a 2 ou 3 ans.
Oh, « Je n'étais pas le seul, » dit Lasky.
« Notre rôle s'est borné à établir un portrait robot psychologique de l'assassin. En fin de compte, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est un travail de routine policière qui a permis l'arrestation du tueur. »«
Ouais.
Mais vous avez écrit un livre sur les tueurs en série dans son genre. »
Dick et moi aimerions savoir ce que vous pensez de notre affaire. »
Gentry se leva et se dirigea vers un tableau noir caché par une feuille de papier d'emballage. Il la souleva et dévoila une série de diagrammes ainsi qu'une liste de noms et d'heures.
« Vous connaissez probablement toute la distribution de ce drame. »«
En partie seulement, » dit Lasky.
« Les journaux de New York ont surtout parlé de Nina Drayton, de la petite fille et de son grand-père. »
« Oui, Cathy. »
Gentry tapa le tableau à côté de son nom.
« Kathleen Mary Elliott, 10 ans. J'ai vu sa photo de classe hier. Mignonne. Plus agréable à regarder que les photos de l'identité judiciaire. »
Gentry marqua une pause et se frotta les joues. Lasky sirota une nouvelle gorgée de café et attendit.
« Nous avons 4 scènes à étudier. » dit le shérif en indiquant un plan. « Un citoyen tué ici, dans Calhoun Street, en plein jour. Un autre tué à un pâté de maison de là, dans la marina de la batterie. 3 cadavres au domicile Fuller, ici. »
Il indiqua du doigt un petit carré à l'intérieur duquel se trouvaient 3 croix.
« Et notre bouquet final à l'hôtel Mansard House avec 4 morts. »
« Existe-t-il un rapport entre tous ces meurtres ?»
demanda Lasky.
« Là est le problème, » soupira Gentry. « La réponse est oui et non, si vous voyez ce que je veux dire. »
Il indiqua la liste de noms.
« Monsieur Preston, le gentleman noir tué à coups de couteau dans Calhoun Street, est un photographe local établi dans le vieux quartier depuis 26 ans. Nous pensons qu'il passait innocemment par là, et qu'il a été tué par le cadavre suivant sur notre liste.
« Carl Thorne, » lut Lasky.
« Le serviteur de la femme disparue, » dit Haynes.
« Ouais, »
fit Gentry. Mais en dépit de ce qu'indiquait son permis de conduire, il ne s'appelait pas Thorne.
« Ni Carl.
Nous avons transmis ses empreintes digitales à Interpol, qui nous a appris aujourd'hui qu'il était jadis connu sous le nom d'Oscar Felix Haupt. Un minable rat d'hôtel suisse. Il a disparu de Berne en 1953.
« Grand Dieu !» murmura le psychiatre.
« On conserve aussi longtemps les empreintes digitales des cambrioleurs ?»«
Haupt n'était pas seulement un rat d'hôtel, » intervint Haynes. « Apparemment, on le soupçonne d'avoir participé en 1953 au meurtre atroce d'un baron français venu faire une cure en Suisse. C'est peu de temps après ce meurtre que Haupt a disparu. La police suisse pensait qu'il avait été assassiné, sans doute par des truands européens.
Apparemment, elle se trompait, commenta Gentry.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de contacter Interpol?
Demanda Lasky.
Une intuition, dit Gentry en se retournant vers le tableau.
Bon, nous avons trouvé le cadavre de Carl Oscar Felix Thornhaupt ici, dans la marina. Et si les choses s'étaient arrêtées là, peut-être aurions-nous pu trouver un mobile. Vol de bateau, sans doute. La balle retrouvée dans le crâne de Haupt provient du 38 du veilleur de nuit. Le problème, c'est que Haupt avait non seulement deux balles dans le corps, mais qu'il était de plus en piteux état. Il y avait deux types de taches de sang sur son corps, les siennes exceptées, et les échantillons de peau et de tissu prélevés sous ses ongles indiquent clairement que c'est lui qui a agressé Mr. Preston.
« Ça se complique, » dit Saul Lasky.
« Vous n'avez encore rien vu, professeur. » Gentry indiqua trois autres noms. Barrett Kramer, George Hodges et Kathleen Marie Elliott. « Connaissez-vous cette dame, professeur ?»«
Barrett Kramer ?» demanda Lasky.
« Non. J'ai lu son nom dans les journaux, mais je ne la connais pas. »«
Tant pis. Ça valait la peine d'essayer. » C'était la compagne de voyage de Mrs. Drayton, sa secrétaire, d'après les gens qui sont venus de New York pour récupérer le corps de Mrs. Drayton. Brune, la trentaine, plutôt baraquée.
« Non, » dit Lasky, « je ne me rappelle pas l'avoir vue. Elle n'a pas accompagné Mrs. Drayton pour ses deux séances avec moi. Peut-être a-t-elle assisté à ma conférence le jour où j'ai rencontré Mrs. Drayton, mais je ne l'ai pas remarqué. »
« Ok. Bon. »
Miss Kramer a été abattue par le Smith & Wesson calibre 38 de M. Hodges. Mais le coroner est presque sûr que ce n'est pas ça qui l'a tuée. Elle semble s'être brisée la nuque en tombant dans l'escalier de la maison Fuller. Elle respirait encore lorsque l'ambulance est arrivée sur les lieux, mais elle a été déclarée décédée en salle des urgences. Pas d'onde cérébrale ou quoi que ce soit de ce genre. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que les preuves matérielles suggèrent que ce pauvre vieux Hodges n'a même pas abattu cette femme. Il a été retrouvé ici.
Gentry indiqua un nouveau diagramme.
Dans l'entrée de la maison Fuller. Son revolver a été retrouvé ici, dans la chambre de Mrs. Drayton à Mansard House. En résumé, qu'avons-nous sur les bras? 8 victimes? 9. En comptant Albert Lafollette, 5 armes ?
5 armes ? S'étonna Lasky.
Excusez-moi, shérif, je ne voulais pas vous interrompre.
Ce n'est pas grave.
Oui, 5 armes.
Du moins, à notre connaissance.
Le vieux 45 utilisé par Albert, le 38 de Hodges, un couteau retrouvé près du corps de Haupt, et ce foutu tisonnier avec lequel la Kramer a tué la petite fille.
« C'est Barrett Kramer qui a tué la petite fille ?»«
Eh oui.
Du moins a-t-on retrouvé ses empreintes sur ce foutu machin. Et son corps était maculé du sang de la fillette. »«
Ça ne fait que 4 armes, » dit Lasky.
« Ah oui, il y a aussi cette canne en bois que nous avons trouvée près de la porte de service de la marina. Il y avait du sang dessus. »
Saul Lasky secoua la tête et se tourna vers Richard Haynes. L'agent fédéral avait les bras croisés et les yeux fixés sur le tableau noir. Il semblait épuisé et écœuré.
« Un vrai panier de crabes, hein, professeur ?» conclut Gentry.
Il retourna derrière son bureau et s'affala sur son fauteuil en soupirant. Il se pencha en arrière et sirota une gorgée de café froid.
« Des théories ?»
Lasky eut un sourire piteux et secoua la tête. Il se concentra sur le tableau noir, comme s'il essayait d'assimiler les informations qui y étaient inscrites. Au bout d'une minute, il se gratta la barbe et dit à voix basse.
« Aucune théorie. J'en ai peur, shérif. Mais j'ai une question évidente à vous poser.
Laquelle ?
Où est passée Mrs. Fuller ? La dame chez qui s'est déroulé ce carnage ?
Miss Fuller. »
rectifia Gentry.
À en croire ses voisins, c'était une des vieilles filles les plus distinguées de Charleston.
Et ça fait presque 200 ans qu'on utilise le titre de Miss dans cette région, professeur.
Et, pour répondre à votre question, il n'y a aucun signe de Miss Mélanie Fuller.
Un témoin prétend avoir aperçu dans l'hôtel une vieille femme non identifiée, juste après l'assassinat de Mrs. Drayton. Mais personne n'a pu nous confirmer qu'il s'agissait de Miss Fuller. Nous avons lancé un avis de recherche dans 3 états, mais ça n'a rien donné pour l'instant.
Il me semble que c'est elle qui détient la clé de ce mystère, suggéra modestement Lasky.
Ouais, peut-être. D'un autre côté, on a retrouvé son sac à main tout déchiré dans les toilettes de la marina de la batterie. Les taches de sang qui s'y trouvaient correspondent à celles relevées sur le cran d'arrêt Made in Paris de Karl Oscar.
Mon Dieu, murmura le psychiatre. Tout ça n'a aucun sens.
Il y eut quelques instants de silence, puis Haynes se leva.
Peut-être que cette affaire est plus simple qu'il n'y paraît, dit-il en tirant sur ses manchettes. Mrs. Drayton a rendu visite à Mrs. Fuller, à Miss Fuller, la veille des meurtres. Les empreintes relevées dans la maison confirment sa présence, et une voisine l'y a vu entrer le vendredi soir. Mrs. Drayton a eu la mauvaise idée d'engager cette Barrett Kramer comme secrétaire. Kramer était recherchée à Philadelphie et à Baltimore pour des faits remontant à 1968.
« Quel genre de faits ?» demanda Lasky.
« Affaire de mœurs et trafic de drogue, » dit sèchement l'agent fédéral. Miss Kramer et le serviteur de la Fuller, ce fameux Thorne, complotaient contre leurs employeurs. Après tout, la fortune de Mrs. Drayton est évaluée à 2 millions de dollars, et Miss Fuller avait un compte en banque bien garni à Charleston.
« Mais comment ont-ils pu ?» commença le psychiatre.
« Un instant. » Donc, Kramer et Thorne, Haupt, si vous voulez, assassinent votre Miss Fuller et se débarrassent de son corps. La patrouille nautique est occupée en ce moment à fouiller la baie. Mais son voisin, le vieux veilleur de nuit, les surprend. Il abat Haupt et retourne dans la maison Fuller pour y tomber sur Kramer. La petite fille du vieillard le voit depuis la cour et se précipite à sa suite pour être à son tour assassinée. Albert La Follette, complice des deux autres, panique lorsque Kramer et Haupt ne le rejoignent pas comme prévu. Il tue Mrs. Drayton et perd les pédales. Gentry oscillait d'avant en arrière sur son fauteuil, les doigts croisés sur son estomac. Il avait un petit sourire aux lèvres.
« Et Joseph Preston, le photographe ?»«
Un passant innocent, comme vous l'avez dit, » répliqua Haynes. « Peut-être a-t-il vu l'endroit où Haupt s'est débarrassé du corps de la vieille dame. Il ne fait aucun doute que c'est le Bosch qui l'a tué. Les échantillons de peau et de tissu prélevés sous les ongles de Preston correspondent parfaitement aux griffures observées sur le visage de Haupt. Ou ce qui en restait.
« Ouais, et son œil ?» demanda Gentry.
« Son œil ?
L'œil de qui ?»
Le regard du psychiatre alla du shérif à l'agent du FBI.
« L'œil de Haupt, » répondit Gentry.
« Il a disparu.
Quelqu'un lui a défoncé la partie gauche du visage avec un objet contondant. »
Haynes haussa les épaules.
« Ça reste quand même le seul scénario valable. Deux personnes recherchées par la police et au service de deux vieilles dames fortunées. Leur tentative de kidnapping ou d'assassinat tourne mal et débouche sur une série de meurtres.
« Mouais, » fit Gentry. « Peut-être. »
Durant le silence qui suivit, Saul Lasky entendit des rires provenant des autres bureaux de l'hôtel du comté. Au dehors, une sirène hurla, puis le silence revint.
« Qu'en pensez-vous, professeur ? D'autres idées ?» demanda Gentry.
Saul Lasky secoua lentement la tête.
« Je trouve cela très déconcertant. Et l'idée de résonance de la violence que vous évoquez dans votre livre ?» demanda Gentry.
Fit Lasky. « Ce n'est pas exactement ce genre de situation que j'avais en tête. Il y a certainement eu une chaîne de violence, mais je ne vois pas quel en a été le catalyseur. »«
Le catalyseur ?» répéta Haynes.
« Qu'est-ce que vous racontez ?»
Gentry posa ses pieds sur le bureau et s'essuya la nuque avec un mouchoir rouge.
Le livre du docteur Lasky parle de situations qui programment les gens au meurtre.
« Je ne comprends pas, » dit Haynes.
« Qu'entendez-vous par « programmer » ?»«
Pensez-vous à ce vieil argument gauchiste qui explique le crime par la pauvreté et par les conditions sociales ?»
À en juger par le ton de sa voix, son opinion sur cet argument ne faisait aucun doute.
« Pas du tout, » dit Lasky.
« Je pars de l'hypothèse qu'il existe des situations, des conditions, des institutions et même des individus qui déclenchent chez certaines personnes des réactions de stress conduisant à des actes de violence, voire à des homicides perpétrés sans raison apparente. »
L'agent du FBI plissa le front. « Je ne comprends toujours pas. »«
Bon sang !» dit le shérif Gentry. « Vous avez vu notre petite pension de famille, Dick ? Non ?
Ah, bon Dieu ! Vous devez voir ça avant de nous quitter. »
En août dernier, on a repeint tous les murs en rose. Maintenant, on l'appelle le Valium Hotel. Mais ça marche. Les bagarres ont diminué de 60% depuis que la peinture a fini de sécher. Et la clientèle ne s'est pas améliorée pour autant.
Bien sûr, c'est exactement le contraire des cas que vous évoquiez, n'est-ce pas, professeur ?
Lasky ajusta ses lunettes. Comme il levait la main, Gentry aperçut des chiffres bleu pâle tatoués sur son avant-bras, juste au-dessus du poignet.
« Oui, mais c'est une application d'un autre aspect de la même théorie, » dit le psychiatre. « Plusieurs études ont montré que l'attitude et le comportement d'un sujet changent de façon mesurable en fonction de la couleur de son environnement. Les raisons expliquant la diminution des actes de violence dans un tel environnement sont au mieux très vagues. Mais il existe néanmoins des données empiriques sur le sujet, comme vous-même avez pu le constater, shérif. Et ces données semblent prouver que les réactions psychophysiologiques peuvent varier en fonction d'une variable couleur. Ma thèse suggère que certains des points les plus obscurs des crimes violents résultent d'une série plus complexe de stimuli.
« Mouais, » fit Haynes. Il consulta sa montre et se tourna vers Gentry. Le shérif était assis confortablement sur son fauteuil, les pieds posés sur son bureau. Irrité, Haynes chassa un grain de poussière imaginaire de son pantalon gris.
« J'ai bien peur de ne pas voir en quoi ces théories peuvent nous aider, docteur Lasky, » dit l'agent fédéral. « Le shérif Gentry enquête sur une série de meurtres horribles. Pas sur une course de souris blanche dans un labyrinthe. »
Lasky hocha la tête et eut un léger haussement d'épaule.
« J'étais de passage ici. J'ai informé le shérif de mes relations avec Mrs. Drayton et je lui ai proposé de l'assister dans la mesure de mes moyens. Je me rends compte à présent que je vous ai fait perdre un temps précieux. Merci pour le café, shérif. »
Le psychiatre se leva et se dirigea vers la porte.
« Merci de votre aide, professeur. »
Gentry éternua dans son mouchoir rouge, puis s'en frotta le nez comme pour apaiser une démangeaison.
« Oh, il y a une autre question que je voulais vous poser. »
Lasky se retourna, une main sur la poignée, et attendit.
« Docteur Lasky, pensez-vous que ces meurtres aient pu résulter d'une querelle entre les deux vieilles dames ? Je veux parler de Nina Drayton et de Melanie Fuller. » Aurait-elle pu déclencher toute cette série d'assassinats ?
Le visage de Lasky était dénué de toute expression. Ses yeux tristes sillèrent.
C'est possible. Mais ça n'explique pas les meurtres de Mansard House, n'est-ce pas ?
Non. En effet. Gentry se moucha une dernière fois dans le tissu rouge.
D'accord. Eh bien, merci, professeur. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir contactés. Si vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet de Mrs. Drayton qui puisse nous aider à comprendre le comment et le pourquoi de cette histoire, téléphonez-nous en PCV, d'accord ?
Je n'y manquerai pas, dit le psychiatre.
Bonne chance, messieurs.
Haynes attendit que la porte soit refermée.
On devrait faire une petite enquête sur ce Lasky, dit-il.
Gentry tenait sa tasse vide et la faisait lentement tourner dans ses mains.
« Déjà fait.
Il est bien qui il prétend être.
Haynes tika. Vous vous êtes renseigné sur lui avant qu'il ne vienne ici?
Gentry eut un large sourire et reposa sa tasse. Après son coup de fil d'hier, on a si peu de suspects que j'ai estimé que je ne perdrais pas mon temps en téléphonant à New York.
J'ai fait vérifier son emploi du temps pendant la période correspondant à...
Il donnait une conférence à Columbia, samedi soir, dans le cadre d'un séminaire public sur la violence urbaine. Ensuite, il y a eu une réception qui s'est achevée après 11 heures du soir. J'ai parlé au doyen.
Je vérifierai quand même son dossier. Je ne pense pas que Nina Drayton soit allée le consulter. Ça sonne faux.
Ouais. Je vous serai reconnaissant de vous en charger, Dick.
L'agent du FBI récupéra sa gabardine et son attaché case. Il marqua une pause en remarquant l'attitude du shérif. Les doigts de Gentry étaient serrés si fort que leurs phalanges étaient blanches. Dans ses yeux bleus d'ordinaire enjoués se lisait une colère proche de la rage. Gentry se tourna vers lui.
Dick, j'aurai besoin de toute l'aide que vous pourrez m'apporter sur cette affaire.
Bien entendu.
Je parle sérieusement,
dit Gentry en attrapant un crayon des deux mains.
Personne ne peut commettre impunément 9 meurtres dans mon comté. Quelqu'un est à l'origine de toute cette merde, et je finirai par savoir qui c'est.
Naturellement.
Je finirai par savoir qui c'est,
répéta Gentry. Il leva la tête. Ses yeux étaient glaciaux. Le crayon se brisa entre ses doigts sans qu'il le remarque.
« Je les aurai, Dick. Je les aurai. Je le jure. »
Haynes acquiesça, lui dit adieu et partit. Gentry regarda la porte ouverte pendant un long moment après le départ de l'homme du FBI. Finalement, son regard s'abaissa sur le crayon cassé qu'il tenait dans ses mains. Il se garda de sourire. Lentement, soigneusement, il entreprit de casser le crayon en morceaux de plus en plus petits. Haynes se rendit à son hôtel en taxi, fit ses valises, paya sa note et prit le même taxi pour aller à l'aéroport international de Charleston. Il était en avance. Après avoir fait enregistrer ses bagages, il se promena dans le hall, acheta Newsweek et passa sans s'arrêter devant une série de téléphones publics pour faire halte devant une rangée de cabines situées dans un couloir secondaire. Il composa un numéro dont le préfixe correspondait à la zone de Washington.
« Le numéro que vous avez demandé est provisoirement indisponible, » dit une voix féminine préenregistrée. « Veuillez faire un nouvel essai ou contacter un représentant local de Bell. »
« Haynes, Richard M. » dit l'homme du FBI.
Il jeta un regard par-dessus son épaule en direction d'une femme qui revenait des toilettes avec son enfant.
« Coventry, Cable. Je souhaite contacter le 779-491. »
Il y eut un déclic, un léger bourdonnement, puis le murmure d'un nouveau répondeur.
« Ce bureau est fermé pour inventaire jusqu'à nouvel ordre. Si vous souhaitez laisser un message, veuillez attendre la tonalité. Vous avez tout le temps voulu. »
30 secondes de silence, puis un léger carillon.
Ici Haynes. Je vais quitter Charleston. Un psychiatre nommé Saul Lasky est venu parler à Gentry aujourd'hui. Lasky dit qu'il travaille à Columbia. Il a écrit un livre intitulé « Pathologie de la violence », Academy Press. Et il dit qu'il a rencontré 3 fois Nina Drayton à New York. Il affirme ne pas connaître Barrett Kramer, mais peut-être qu'il ment. Lasky a un numéro de camp de concentration tatoué sur le bras. 449-0182. Gentry a fait des recherches sur Carlton et sait qu'il s'agissait en réalité d'un cambrioleur suisse nommé Oscar Felix Haupt. Gentry a l'air d'un plouc, mais ce n'est pas un imbécile. Apparemment, il considère cette affaire comme un affront personnel.
Mon rapport vous parviendra demain. En attendant, je recommande la mise en place d'une surveillance de Lasky et du shérif Gentry. Peut-être serait-il souhaitable de procéder à l'annulation du contrat de ces 2 messieurs. Je serai rentré à 20 heures et j'attendrai d'autres instructions. Haynes, Cable, Coventry.
L'agent Richard Haynes raccrocha, ramassa son attaché-case et rejoignit d'un pas vif la foule qui se dirigeait vers les portes d'embarquement. Saul Lasky sortit de l'hôtel du comté et regagna la petite rue où il avait garé sa Toyota de location. Une fine pluie tombait sur la ville, mais Saul fut frappé par la douceur de l'air. Il devait faire entre 15 et 20 degrés. La veille, lorsque Saul avait quitté New York, il neigeait et la température avoisinait moins 10. Saul s'assit au volant et regarda la pluie strier le pare-brise. L'intérieur de la voiture sentait le Sky 9 et le cigare. En dépit de la douceur de l'air, il se mit à frémir, puis à trembler de tous ses membres. Saul saisit le volant des deux mains jusqu'à ce que son torse cesse de trembler. Seules ses jambes continuaient à frissonner doucement. Il empoigna les muscles de ses cuisses et pensa à autre chose, au printemps, à un lac paisible qu'il avait découvert dans les Adirondacks l'été précédent, à une vallée abandonnée du Sinaï où des colonnes romaines battues par le sable se dressaient devant les falaises de schiste. Au bout de quelques minutes, Saul démarra et erra sans but précis dans les rues luisantes de pluie. La circulation était fluide. Il envisagea de prendre la route 25 pour regagner son motel. Au lieu de cela, il emprunta East Bay Drive et prit la direction du sud, pénétrant dans le vieux quartier de Charleston. Mansard House se reconnaissait à sa marquise verte qui surmontait toute la largeur du trottoir. Saul jeta un bref regard à l'entrée sombre de l'hôtel et poursuivit sa route. Trois pâtés de maisons plus loin, il tourna à droite et s'engagea dans une étroite rue résidentielle. Des grilles en fer forgé séparaient cour et jardin des trottoirs en briques. Saul ralentit, compta à voix basse et repéra les numéros de voirie. La maison de Mélanie Fuller était plongée dans l'ombre. La cour était déserte et le bâtiment nord, avec ses fenêtres fermées par des planches, semblait condamné. Il y avait une chaîne et un cadenas au portail de la cour. Le cadenas semblait tout neuf. Saul tourna à gauche au carrefour suivant, puis de nouveau à gauche, et trouva enfin une place non loin de Broad Street, derrière un camion de livraison. La pluie avait gagné en intensité. Saul attrapa un bob blanc sur la banquette arrière, se l'enfonça sur la tête et releva le col de son blouson de velours. La ruelle qui conduisait au centre du pâté de maison était bordée de minuscules garages, d'épaisses haies, de hautes barrières et d'innombrables poubelles. Saul compta les maisons, comme il l'avait fait quelques instants plus tôt, mais il lui fallut retrouver les deux palmiers mourants près de la fenêtre sud pour vérifier qu'il s'agissait du bon bâtiment. Il avançait, les mains dans les poches, sachant qu'il n'était guère discret, mais incapable d'y remédier. La pluie tombait toujours. La grisaille de l'après-midi laissait insidieusement place à la pénombre d'une soirée d'hiver. Il avait à peine une demi-heure de jour devant lui. Saul inspira profondément et s'engagea sur une allée de 3 mètres qui s'achevait devant une bâtisse où on avait sans doute jadis remisé le fiacre de la maison. Ses fenêtres étaient peintes en noir, mais il était évident qu'elles n'avaient jamais servi de garage. Le grillage était en acier trempé et servait de support à des plantes grimpantes et aux branches acérées d'une haie bien fournie. Le petit portail, élément d'une grille en fer forgé aujourd'hui disparue, était fermé par une chaîne et un cadenas. Une bande de plastique jaune passée autour de la chaîne avertissait « Entrée interdite par ordre du shérif du comté de Charleston ». Saul hésita. On n'entendait que le staccato de la pluie sur le toit d'ardoise de la bâtisse et les gouttes d'eau qui tombaient du kudzu. Il tendit la main, agrippa le sommet de la barrière, posa le pied gauche sur le portail, resta quelques secondes en équilibre précaire au-dessus des pointes de fer rouillées, puis atterrit sur le pavé de l'arrière-cour. Saul resta accroupi quelques secondes, les mains plaquées sur la pierre humide, la jambe droite immobilisée par une crampe, et écouta les battements de son cœur et les aboiements d'un petit chien dans une cour voisine. Les aboiements cessèrent. Saul longea d'un pas vif un massif de fleurs et une vasque de guingois pour se diriger vers un porche en bois, qui avait de toute évidence été greffé à la maison de briques longtemps après sa construction. La pluie, la pénombre et l'eau dégoulinant de la haie semblaient étouffer les bruits du voisinage et amplifier ceux que produisait Saul. Sur sa gauche, il aperçut des plantes vertes derrière la fenêtre, là où la serre aménagée empiétait sur le jardin. Il essaya d'ouvrir la porte grillagée du porche. Elle céda avec un soupir rouillé, et Saul pénétra dans les ténèbres. L'intérieur du porche était long et étroit, sentait la moisissure et la terre pourrissante. Saul distingua des pots en argile vide rangés sur des étagères le long du mur de briques. La porte de la maison était massive, pourvue de vitraux et de superbes moulures, et fermée à clé. Saul savait qu'elle devait être munie de plusieurs verrous. Il était pareillement persuadé que la vieille femme avait fait installer un système d'alarme, mais il était tout aussi certain que celui-ci n'était pas relié au poste de police. Et si la police avait effectué le branchement nécessaire? Saul secoua la tête et traversa le porche obscur pour aller examiner les fenêtres étroites derrière les étagères. Il aperçut la masse pâle d'un réfrigérateur. Soudain, le tonnerre gronda dans le lointain, et la pluie tomba de plus belle sur les toits et sur les haies. Saul déplaça plusieurs pots, les posant sur des étagères vides, puis essuya ses mains maculées de terre et ôta de son socle une planche longue d'un mètre. Les fenêtres qui se trouvaient devant lui étaient soigneusement fermées de l'intérieur. Saul s'accroupit, pressa ses doigts contre la vitre pendant une seconde, puis se mit à la recherche du plus lourd des pots en argile. En se brisant, le verre sembla produire un véritable vacarme, encore plus intense que le coup de tonnerre ponctuant les feux stroboscopiques de l'éclair, qui venait de transformer les vitres intactes en autant de miroirs. Saul leva une nouvelle fois le pot, fracassa la silhouette barbue de son propre reflet, écarta les échardes de verre plantées dans le châssis, et chercha le loquet à tâtons. Tel un enfant apeuré, il imagina soudain une main saisissant la sienne et sentit son sang se glacer. Il trouva une chaîne et tira. La fenêtre s'ouvrit. Il s'y faufila, posa le pied sur une surface en formica jonchée d'éclats de verre, puis atterrit bruyamment sur le sol carrelé de la cuisine. La vieille maison était peuplée de bruit. L'eau coulait dans les gouttières tout près des fenêtres. Le réfrigérateur émit un bruit sourd qui fit sursauter Saul. Il remarqua que l'électricité était sans doute encore branchée. Il entendit un léger grattement, comme le bruit d'un ongle sur une vitre. Il y avait trois portes battantes dans la cuisine. Saul choisit celle qui se trouvait devant lui et pénétra dans un long couloir. La pénombre ne l'empêcha pas de voir que le parquet ciré était endommagé à quelques pas de la cuisine. Il fit halte au pied du grand escalier, s'attendant à moitié à découvrir des silhouettes dessinées à la craie sur le sol, comme dans ces films policiers américains qu'il aimait tant. Il n'y en avait aucune. Saul ne vit qu'une large tache sombre sur le plancher, près de la première marche. Il jeta un bref coup d'œil dans le petit couloir conduisant à l'entrée, puis entra dans une pièce vaste, mais encombrée de meubles qui semblaient tous dater du siècle dernier. Une faible lumière filtrait à travers des vitraux au-dessus d'une large baie vitrée. La pendule, placée au-dessus de la cheminée, était arrêtée à 3h26. Les fauteuils rembourrés et les armoires remplies de porcelaine et de cristal semblaient avoir absorbé tout l'oxygène de la pièce. Saul tirailla son col et examina en hâte le petit salon. Cette pièce sentait. Elle empestait la vieillesse, la cire, le talc et la viande en décomposition. Une odeur que Saul avait toujours associée à sa vieille tante Danuta et à son petit appartement de Cracovie. Danuta était morte à l'âge de 103 ans. De l'autre côté du couloir se trouvait une salle à manger déserte.
Le lustre massif tinta au rythme des pas de Saul. Dans le hall, il vit une patère vide de tout vêtement et deux cannes noires posées contre le mur. Un camion passa dans la rue et la maison vibra. La serre sur laquelle donnait la salle à manger était mieux éclairée que le reste de la maison. Saul s'y sentit vulnérable. La pluie avait cessé de tomber et il vit les roses qui se dressaient dans le jardin ruisselant. Il ferait noir, dans quelques minutes à peine. Une superbe vitrine en merisier avait été fracassée. Des éclats de verre jonchaient encore le sol. Saul s'avança avec précaution et s'accroupit. Quelques statuettes gisaient sur l'étagère du milieu. Saul se releva et regarda autour de lui. La panique montait en lui sans raison apparente. L'odeur de viande morte semblait l'avoir suivi jusqu'ici. Il s'aperçut que sa main droite ne cessait de s'ouvrir et de se refermer. Il pouvait encore partir, aller directement à la cuisine et être sorti d'ici en moins de 2 minutes. Il fit demi-tour et traversa le couloir obscur jusqu'à l'escalier. La rampe était lisse et fraîche au toucher. Il y avait un petit vasistas dans le mur, en face des marches. Mais l'obscurité semblait se lever comme de l'air froid pour redescendre sur le palier devant lui. Il fit halte en haut des marches. La porte qui se trouvait sur sa droite avait presque été arrachée de ses gonds. Des échardes pâles pendaient à ses montants, tels des tendons déchirés. Saul se força à entrer dans la pièce. L'odeur qui y régnait rappelait celle d'une chambre froide après plusieurs semaines sans électricité. La garde-robe qui se dressait dans un coin lui évoqua un cercueil posé à la verticale. De lourds rideaux occultaient les fenêtres donnant sur la cour. Un peigne et une brosse en ivoire, antiques et d'aspect coûteux, étaient posés sur une vieille coiffeuse au miroir terne et piqueté. Le grand lit était soigneusement fait. Saul était prêt à repartir lorsqu'il entendit un bruit. Il se figea sur place, serrant involontairement les poings. Rien, excepté l'odeur de viande pourrie. Il était prêt à se remettre en marche, prêt à attribuer ce bruit à l'eau qui coulait dans les gouttières bouchées, lorsqu'il l'entendit à nouveau, plus distinctement cette fois. C'était un bruit de pas au rez-de-chaussée. Lentement, mais avec un soin délibéré, ce bruit de pas se déplaça dans l'escalier. Saul pivota sur lui-même et s'avança vers la garde-robe. La porte n'émit aucun bruit lorsqu'il l'ouvrit et se glissa au milieu de toute une forêt laineuse de vêtements de vieille dame. Un bruit de tambour lui martelait les tympans. La porte gondolée refusa de se fermer complètement, et l'entrebâillement lui permit de distinguer une fine ligne verticale de lumière grise, interrompue en son milieu par la masse sombre et horizontale du lit. L'intrus arriva en haut de l'escalier, hésita durant un long moment de silence, puis entra dans la chambre. Le bruit de ses pas était très doux. Saul retint son souffle. Une odeur de laine et de naphtaline se mêlait dans ses narines à la puanteur de la viande pourrie, menaçant de le suffoquer. Robes longues et écharpes s'accrochaient à lui, cherchaient à atteindre ses épaules et sa gorge. Saul ne savait pas si le bruit de pas s'était éloigné tellement ses oreilles bourdonnaient. Panique et claustrophobie s'emparèrent de lui. Il n'arrivait plus à voir la fine bande de lumière. Il se souvint de la terre tombant sur les visages tournés vers le ciel. Des bras pâles qui frémissaient sous les pelletées de terre noire, de l'emplâtre blanc sur une joue mal rasée et de la jambe qui se balançait nonchalamment, laine grise noircie par la lumière hivernale au-dessus de la fosse où des membres blancs grouillaient comme des vers dans la terre noire. Saul hoqueta. Il lutta contre la laine qui l'étouffait et tendit la main pour ouvrir la porte de la garde-robe. Il ne la toucha jamais. La porte s'ouvrit violemment vers l'extérieur.